20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Peu de peuples gaulois sont entrés dans l'histoire, si ce n'est Arverne, Carnute ou Éduin, dans les dernières heures d'une Gaule libre et indépendante. Alésia tombée, César achève la rédaction de la guerre des Gaules. Pour autant, c'est sans compter une ultime bataille, celle d'Uxellodunum, menée par le dernier des Sénons, Drapès. Les Sénons, voici un peuple qui est rentré de force dans la grande histoire, et 3 siècles plus tôt. Les Sénons, dont Fleurus dira qu'il s'agit d'un peuple né pour massacrer les hommes, saccager les villes. Les Sénons, synonyme d'effroi, incarné sous les traits d'un homme, Brennos et sa bande. Aujourd'hui, les Sénons ressurgissent du passé au travers de 2 expositions à Sens et à Troyes, sous l'égide de Luc Barret, directeur de recherche au CNRS. Luc Barret, bonsoir.
Bonsoir.
Uxellodunum, voici une bataille dont on ne parle jamais et sur laquelle César ne daigne même pas écrire.
César n'écrit pas sur Uxellodunum, c'est Hirtius, un de ses lieutenants, qui se charge de la rédaction de ce livre 8, ce livre de la 8e année de la guerre des Gaules, donc 51 avant Jésus-Christ.
Que devient Drapès ?
Drapès se laisse mourir de faim. Drapès est vaincu par les lieutenants de César. César n'intervient pas au moment où Drapès entre en scène. Il est capturé au moment où il sort de l'oppidum d'Uxellodunum de façon à ravitailler cet oppidum qui est assiégé par les troupes romaines. Il est fait prisonnier et plutôt que de subir l'affront du triomphe de César, il se laisse mourir de faim.
C'est une bataille terrible avec des représailles absolument atroces.
Oui, il fallait marquer les esprits. On est en 51, c'est la 8e année de la guerre des Gaules. César a besoin de rentrer à Rome, il a besoin de poursuivre sa carrière politique. Il a fait ses preuves en tant que grand général, en tant que vainqueur. Il est désormais le dieu César. Donc il a besoin d'une fin qui marque les esprits. Et les défenseurs d'Uxellodunum vont être non pas massacrés, on va leur couper les mains et les renvoyer dans leur foyer afin de marquer les esprits.
2000 hommes, 4000 mains ?
2000 hommes, 4000 mains, un impact psychologique très important, très fort, sur les populations des alentours.
Luc Barret, reste à savoir qui sont les Sénons ?
Les Sénons, c'est le peuple qui prend Rome en 390 avant Jésus-Christ. C'est le peuple emblématique, le peuple celtique par excellence, puisque prendre Rome, c'était quand même prendre non pas la capitale d'un empire, mais d'un empire en devenir.
En Gaule, où vivent-ils ?
Ils vivent au sud de la Champagne. Globalement, ils sont dans la partie septentrionale de Lyon, à l'ouest du Loiret, une grande partie de l'Aube et au sud de la Seine-et-Marne. C'est un vaste territoire, un des plus vastes, puisque César nous dit d'ailleurs au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ que les Sénons forment sans doute un des peuples les plus puissants, les plus respectés de la Gaule.
Quelle est leur capitale ?
Agedincum. Probablement Sens d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'archéologie ne pourrait-elle pas nous en dire plus que les textes antiques ?
L'archéologie nous en dit beaucoup plus, puisque les textes antiques, ce sont des textes, il faut le savoir, des textes orientés. Le texte antique n'est pas une œuvre ethnographique. L'auteur antique, quel qu'il soit, qu'il soit grec, qu'il soit latin, n'a pas pour but de faire de l'ethnographie, de décrire la vie quotidienne, ni les mœurs guerrières de ces populations dites barbares de la périphérie de Rome. Donc l'archéologie vient suppléer largement au texte antique, puisque l'archéologie nous donne accès à la vie quotidienne, aux pratiques funéraires, aux pratiques religieuses, aux modes de combat, à la culture matérielle de ces populations. Donc l'archéologie nous ouvre des horizons insoupçonnés. Si on devait se limiter au texte gréco-latin, on n'aurait qu'une vision très partielle de ces sociétés barbares.
Les Sénons, ils arrivent quand, à peu près, dans cette Gaule ?
A priori, les Sénons sont des autochtones. Sénos, c'est un terme qui veut dire les anciens, les patriarches. Quand on regarde la population, non pas de la Gaule, mais de l'ensemble de l'Europe celtique, on peut dire que 3000 ans avant Jésus-Christ, les grands mouvements de population, les grands mouvements migratoires sont terminés. Les populations sont stables. Et quand on remonte à travers les siècles, à partir du territoire Sénon du 4e siècle avant Jésus-Christ, on s'aperçoit de la pérennité de ces populations. Il n'y a pas de rupture dans l'occupation du sol, dans les habitats, ni les cimetières. pérennité d'occupation des cimetières, pérennité des habitats, continuité et pérennité des modes d'exposition identitaire à travers la culture matérielle. Donc ces gens sont véritablement des autochtones.
Ils bénéficient d'une zone stratégique, on va dire le haut de la Bourgogne, qui est un véritable nœud d'échange.
Un nœud d'échange, un nœud stratégique, un nœud économique qu'il faut absolument contrôler, puisque si on remonte ne serait-ce que 2 siècles avant les Sénons, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ, nous sommes quand même sur le nœud d'échange nord-sud entre la Méditerranée et les populations nordiques d'Europe du Nord. Et c'est sur cette latitude que l'on trouve Bourges, que l'on trouve Vix, donc on trouve les grands centres princiers et qu'on va retrouver, grâce aux fouilles récentes, le prince de Lavaux. Donc nous sommes là dans le territoire Sénon, dans une zone stratégique d'un point de vue à la fois économique et politique. Puisqu'en 57 avant Jésus-Christ, pour ne prendre qu'un exemple qui nous renvoie à la guerre des Gaules, en 57 avant Jésus-Christ, César demande au Sénon de surveiller les Belges, parce qu'il va attaquer les Belges, il va s'en prendre aux Belges, donc ce qu'il appelle la Gaule belgique, et les Sénons, par leur positionnement géographique, à la frontière entre la Gaule celtique et la Gaule belgique, se trouvent dans une position importante.
Si l'on remonte le temps, vous pensez vraiment que le prince de Lavaux, qui est bien sûr en lien avec la Grèce et le monde étrusque, pourrait être un ancêtre des Sénons ?
Oui, je le pense. Oui, je pense que le prince de Lavaux, la tombe de Lavaux est au cœur du territoire Sénon, des territoires historiques Sénon, et je pense que le prince de Lavaux, qui n'est que l'ancêtre d'un petit siècle avant les déplacements des Sénons et leur occupation des territoires adriatiques, non, je pense que l'on peut dire que le prince de Lavaux est un prince Sénon.
Alors bien sûr, tous les archéologues connaissent, les auditeurs peut-être pas. Il faut peut-être rappeler que c'est une fouille récente qui date d'environ 3 ans, sous un tertre gigantesque, la sépulture donc d'un prince, et bien sûr de son char, c'est à peu près ça ?
Voilà, c'est un char à 2 roues. Ce prince est allongé sur son char à 2 roues. Mais la chose la plus significative dans cette découverte, ce sont les objets étrusques et les objets grecs qui accompagnent ce prince lors de son dernier voyage. Et parmi ces objets, nous trouvons des chaudrons, des vases étrusques, des vases grecs. Et tout cela représente ce que nous appelons dans notre jargon archéologique d'historien des biens de prestige. Ces biens de prestige sont des objets que les princes étrusques, leurs contemporains, leurs homologues étrusques, envoyaient au nord des Alpes, à l'occasion donc éventuellement d'alliances militaires ou d'alliances économiques, puisque ces princes celtes occupaient et contrôlaient les échanges nord-sud. Et ces objets de prestige, parmi lesquels l'or tient une place importante, marquent le rang social, le rang élevé de ces individus.
On peut même y voir des sortes de biens d'ambassade ?
Oui, tout à fait, des biens d'ambassade, des dons et des contre-dons entre homologues.
Quelles sont les ressources du prince de Lavaux, de cette région de Troie ? Pas grand-chose ?
Il a peut-être sans doute pas des ressources locales importantes, mais il a la ressource de contrôler les trafics nord-sud.
Récemment fouillé, l'habitat de Batilly en Gâtinais serait un des rares habitats aristocratiques,
c'est
non ?
Ce n'est pas un des rares habitats aristocratiques, mais on pourrait en revanche dire que c'est sans doute le plus important. Il a été fouillé en grande partie, il occupe une surface de plus de 20 hectares. Donc c'est un établissement très important avec des fossés, des structures, une pars rustica, une pars urbana dans laquelle se trouve l'habitat du prince de Batilly. Et ce sont des découvertes importantes dans la mesure où on a des biens matériels comme du bleu d'Égypte, donc des produits qui viennent d'Égypte, qui ont transité soit par la Grèce, soit par l'Italie, qui sont arrivés au nord des Alpes et qui marquent une fois de plus le prestige de ces individus de la haute aristocratie.
Autrement, on a fouillé d'autres choses, comme par exemple des fermes.
Alors, on a
la vie quotidienne du Sénon moyen du 4e siècle avant notre ère, c'est quoi ?
Alors, la vie quotidienne du Sénon moyen, comme la vie quotidienne des Celtes, leurs contemporains, puisque les Sénons sont des Celtes, c'est un habitat sous la forme qui se répartit dans un espace, sous la forme de fermes isolées. Ce sont des fermes isolées avec une partie d'habitat, une partie réservée aux structures d'ensilage, aux animaux, et ce sont des structures isolées les unes des autres. Ce qui fait que on a une vision très éclatée de ces populations. Il faudra attendre le 3e siècle pour voir apparaître les premières agglomérations, comme à Varennes-sur-Seine, dans le sud de la Seine-et-Marne, et puis le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, pour voir apparaître les premiers oppidas, l'oppidum étant la ville celtique par excellence, et nous avons sur le territoire Sénon un oppidum à Melun et un oppidum à Villeneuve-sur-Yonne.
Ce sont des grands oppidas déjà ?
Oui, ce sont
très
des grands
structurés, avec des murailles ostentatoires.
Des murailles ostentatoires, le fameux Murus Gallicus qui nous est décrit par César dans la guerre des Gaules, ce Murus Gallicus qui fait le prestige de ces villes gauloises, mais Murus Gallicus qui ne résistera pas à la poliarcétique, c'est-à-dire à l'art de prendre les villes des Romains.
Disons-le tout de suite, l'Italie n'a pas été que romaine, loin de là. Les Grecs au sud, les Étrusques plus au nord. Ce que l'on ne sait pas, c'est que les Gaulois sont aussi dans la région. Les fameux Gaulois de Cisalpine.
Les Gaulois s'installent au fur et à mesure du 5e siècle et surtout au début du 4e siècle en Italie du Nord. Ils occupent le nord de la vallée du Pô. Certains vont traverser le Pô, notamment les Boyens, les Lingons. Les derniers arrivés dans ces vagues de migration du début du IVe siècle sont les Sénons. Et les Sénons vont s'installer le long de la côte adriatique, aux alentours d'Ancône.
C'est un sujet étudié en Italie, ces Celtes d'Italie?
Oui, c'est un sujet très étudié, mais paradoxalement, les Sénons, qui est le peuple emblématique, puisque, je le répète, c'est celui qui a pris Rome, donc il a une charge symbolique importante dans l'historiographie antique et moderne, les Sénons ont été peu étudiés par les chercheurs italiens. Il y a quelques découvertes, notamment des découvertes des nécropoles de Montefortino ou de Filotrano, mais ce sont des découvertes qui sont restées, on va dire, assez secrètes dans la mesure où peu de chercheurs ont eu accès à ces objets.
La légende dit que Bologne aurait été créée par les Boyens, et bien sûr les Boyens originaires de Bohême.
Les Boyens originaires de Bohême, les Boyens, un des peuples celtes qui a sans doute le plus voyagé, le plus migré à travers l'Europe. Ils se sont installés en Bohême, ils se sont installés en Italie du Nord, après on les retrouve en Pannonie, on les retrouve pendant la guerre des Gaules, alliés des Helvètes lors de la migration de 58 avant Jésus-Christ. Et quand les Helvètes sont battus sous les murs de Bibracte, on va les retrouver puisqu'ils sont... César accepte de ne pas les massacrer, mais de les laisser à la disposition des Éduins, et on va les retrouver dans le centre de la Gaule.
Où s'installent les Sénons en Italie?
Le long de la côte adriatique. Le long de la côte adriatique, ils s'installent là, nous dit Diodore, il nous dit surtout Tite-Live, puisqu'ils sont les derniers arrivés. Donc au fur et à mesure que ces peuples celtes passent les Alpes, s'installent, les derniers arrivés sont obligés d'aller le plus loin possible pour trouver des terres disponibles. Ils vont s'installer le long de la côte adriatique, mais Diodore nous précise très rapidement qu'ils se sentent à l'étroit, et surtout quand ils s'installent pendant l'été 390 avant Jésus-Christ, ils subissent une chaleur importante. C'est un été particulièrement caniculaire, et ils envoient de jeunes guerriers, au nombre de 30 000, passer l'Apennin, chercher de nouvelles terres ou s'installer.
En tout cas, ces grands mouvements migratoires sont nés au 5e siècle avant notre ère. Mais quels sont les moteurs de ces mouvements migratoires?
Alors, les moteurs sont pluriels. Il faut y voir des raisons politiques, sans doute, avec la chute des résidences princières, donc la disparition des princes et des princesses de la Celtique.
Le fameux prince de Lavaux.
Le prince de Lavaux. Antérieurement au prince de Lavaux, on peut citer la dame de Vix, la princesse de Vix. Ce sont des contemporains des tyrans, notamment de Grèce, les Pisistrates. Donc, ces tyrans, ces princes disparaissent, et à ce moment-là, on peut supposer que l'Europe celtique se trouve confrontée à de graves problèmes politiques. À ces graves problèmes politiques vont se surimposer des problèmes économiques, puisque entre 450 avant Jésus-Christ et 410, nous avons une première péjoration climatique avec de fortes chaleurs qui impactent lourdement l'agriculture celtique. Et ces fortes chaleurs sont suivies à partir de 410 jusqu'au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ par une baisse des températures et une forte humidité. Donc au moment où ces populations celtiques décident d'envahir l'Italie du Nord, ils sont confrontés à une humidité et à un froid intense en Europe celtique et vont chercher vers les terres du Sud, vers les terres ensoleillées du Sud, les richesses qu'ils ont appris à connaître depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ.
On parle aussi de crise démographique, de manque de terres.
Alors, c'est tout relatif.
Imaginez, du moins dans les sources antiques.
Oui, les sources antiques, parce que d'un point de vue archéologique, on ne peut pas parler de surpopulation. Ce n'est pas possible. La terre est disponible, elle existe en abondance. Ce qui oblige ces gens à partir, c'est surtout la péjoration climatique. Et d'ailleurs, quand ils arrivent en Italie du Nord, ils demandent des terres. Ils demandent à s'installer dans les terres libres.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Luc Barret, il s'avère que les Gaulois circulent de la Gaule à la Turquie via le mercenariat, et cela très tôt.
À partir de 480, c'est la première date que nous ayons, elle nous est donnée par Hérodote. Hérodote nous apprend que les Élisiques, c'est un petit peuple celte des environs de Narbonne, sont recrutés par les recruteurs puniques pour aller se battre dans l'armée punique contre Gélon de Syracuse. Et ils se battent lors de la bataille d'Imerne, qui c'est une ville située sur la côte septentrionale de la Sicile. Ils se battent dans l'armée punique aux côtés des autres contingents barbares contre les Syracusains, mais ils sont battus.
On parle souvent des Galates.
Alors les Galates, ce sont des Celtes qui, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, vont descendre le long de du Danube, vont être stoppés plus ou moins par l'extension de l'Empire macédonien. Et à la chute de cet Empire macédonien, à la fin du 4e siècle, au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, ils vont envahir la Macédoine, envahir la Grèce. Puis à partir de l'hiver 278-277, ils vont passer en Asie mineure et fonder le royaume de Galatie.
Comment s'imaginer ces guerriers gaulois? On connaît Pont-sur-Yonne, Gay, mais par exemple une très belle nécropole gauloise a été récemment découverte à Buchère avec ces Gaulois en armes. L'un porte d'ailleurs même son bouclier sur le poitrail. Est-ce que c'est ceux-là qui ont circulé vers l'Italie?
Oui, ce sont ces guerriers qui ont circulé. D'ailleurs, c'est un phénomène assez particulier, assez singulier, puisque des rives de l'Atlantique jusqu'à la Roumanie, jusqu'à la Hongrie, on retrouve strictement identique l'armement de ces Gaulois. C'est-à-dire que, au-delà des phénomènes typologiques, au-delà des phénomènes techniques, il y a une homogénéité remarquable de cet armement. Et c'est cet armement, d'ailleurs, qui fera la spécificité de ces guerriers gaulois et qui fera leur renommée sur les champs de bataille méditerranéens entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Les armes, c'est l'épée, la lance, le bouclier?
Oui, c'est l'épée, la lance, le bouclier, et c'est aussi la chaîne de suspension. Cette chaîne de suspension, qui est une invention gauloise, une invention celtique, c'est un système qui permet aux guerriers de courir sur le champ de bataille sans que son fourreau, qui est accroché sur le côté droit de sa ceinture, ne balance et ne vienne se prendre dans ses pieds et ne le pousse à tomber. Cet exploit technologique va permettre aux Gaulois d'être engagés par milliers dans les batailles méditerranéennes, puisqu'ils vont être opposés aux masses inertes, lentes à se déplacer, des armées, des phalanges, soit grecques, soit romaines. Ils vont être des guerriers véloces, qui vont se déplacer rapidement sur le champ de bataille, et ils vont être un atout majeur, un atout tactique majeur, pour livrer des batailles victorieuses, au nom soit des Puniques, soit des princes hellénistiques.
Luc Barret, on l'appelle Brennus ou Brennos en grec, mais curieusement, il s'agit de deux chefs gaulois.
Oui, un chef gaulois qui prend Rome en 390 avant Jésus-Christ et un chef gaulois qui s'attaque à un autre symbole de la civilisation méditerranéenne, cette fois-ci un symbole grec, qui s'attaque à Delphes, au temple de Delphes, au trésor de Delphes, c'est-à-dire au cœur même de l'hellénisme en 279 avant Jésus-Christ.
Alors le Brennos qui prend Delphes, donc un peu plus tard, en 279, lui éclate de rire, s'esclave devant les sculptures d'Apollon à Delphes.
Oui, il trouve que les Grecs ont une approche un peu infantile de leur dieu en les représentant sous des formes humaines. Alors cela pose un problème aux archéologues, puisque en archéologie nous retrouvons des représentations humaines dans la sculpture, sur certaines reproductions d'objets, notamment le fameux chaudron de Gundestrup trouvé en Europe du Nord, chaudron qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Or ces représentations sont interprétées comme étant des représentations de dieux. Alors comment expliquer que d'un côté, les Celtes produisent des représentations de dieux humanisés et que de l'autre, les auteurs gréco-latins nous disent que Brennus s'esclave devant les représentations des dieux grecs.
Brennus, le premier, celui qui attaque Rome en 390, est un sénon?
Il est difficile de répondre à cette question de façon affirmative.
On le dit en tout cas.
On le dit tout simplement parce que Diodore nous dit que les Sénons envoient 30 000 jeunes guerriers chercher de nouvelles terres. Ces jeunes guerriers arrivent devant une petite ville étrusque qui a pour nom Clusium. Là, il y a une bataille qui s'engage, les choses se passent mal et le chef de cette armée sénone est un certain Brennus. Mais rien ne nous dit que ce chef est un sénon pour la simple et bonne raison que cette armée se sentant en infériorité numérique face aux troupes romaines qu'elles vont bientôt affronter sur les bords de l'Allia, demande l'aide des autres populations celtiques qui se sont installées en même temps qu'elles au début du 4e siècle avant Jésus-Christ en Italie du Nord. 40 000 guerriers, sans doute des Boyens, sans doute des Lingons, sans doute des Cénomans, viennent renforcer cette armée pour combattre les Romains. Alors, dire que cette armée est une armée Cénone, on peut en revanche dire que c'est une armée dont le plus fort contingent est sans doute Cénon.
Devant Chiusi, donc, visiblement Rome privilégie la force contre la diplomatie et un chef gaulois est tué en dépit du droit international. Voilà le début d'une faute grave.
Tout à fait. Tout à fait. Les Romains interviennent dans une querelle qui oppose les Gaulois au Clusium. Et quand ils interviennent, ce sont pourtant des ambassadeurs, ils ne doivent pas intervenir, ils interviennent et tuent un chef gaulois. Les Gaulois, avant d'attaquer Rome, jugent qu'il est important de respecter le droit international. Ils envoient des ambassadeurs demander réparation à Rome. Rome refuse d'obtempérer et c'est à ce moment-là que la guerre débute entre les Gaulois et Rome. Et cette guerre va durer plusieurs siècles.
On sait peu de choses sur la diplomatie celtique, si ce n'est que le mot ambassadeur serait un mot gaulois.
Ambassadeur viendrait sans doute d'ambacte, qui est un mot gaulois pour désigner les leudes, si on peut reprendre un terme de l'époque médiévale, les leudes des princes celtes. Donc des guerriers domestiques, des gens qui ont un rang inférieur à leur patronus, à leur patron, mais qui pour autant respectent cette hiérarchie tout en vivant dans les mêmes conditions que leur chef. Donc ce sont des individus qui n'ont pas un rang princier, mais qui ont un rang seigneurial affirmé.
Un fait mémorable, extraordinaire, se déroule à la bataille d'Alia.
Oui, c'est la première fois qu'une armée romaine est confrontée à une armée celtique, à une armée gauloise, et elle est battue. Et cette défaite le long des rives de l'Alia ouvre les portes de Rome, la conquête de la ville.
La description de la bataille est terrible, 3 jours de sang.
Une journée de bataille, mais 3 jours consacrés à récupérer le butin, c'est-à-dire les armes des vaincus, et surtout 3 jours à couper les têtes des vaincus pour en faire des trophées. Ça, c'est très important dans la symbolique du guerrier gaulois qui a besoin de prouver sa bravoure sur le champ de bataille et qui coupe la tête de ses ennemis pour porter cette tête en trophée en signe de victoire et de réussite.
Les Romains ont dû être horrifiés.
Ils ont été horrifiés, ils sont partis, c'était une véritable débandade. Ils n'en sont pas fiers, hein, mais puisque cette bataille du 18 juillet 390 va rester dans les annales romaines comme étant une journée néfaste.
On connaît le malheur aux vaincus, mais comment s'est déroulée la prise de Rome qui suit?
Il faut imaginer Rome ville ouverte. Les Romains sont battus, ils sont débandés. Les rares survivants se réfugient à Veisse, qui est une petite ville du Latium proche de Rome. Et la ville est une ville ouverte. Les Gaulois sont d'ailleurs surpris, hein. Ils arrivent devant cette ville. Ils tergiversent un peu avant de pénétrer dans cette ville et ils finissent par y pénétrer. Ils rencontrent des individus à longue barbe blanche. On nous dit qu'ils ont de longues barbes blanches. Ils sont habillés de grands péplums blancs. En réalité, ce sont des sénateurs qui ont désiré rester, qui n'ont pas désiré livrer totalement la ville aux barbares. Et ces sénateurs vont être massacrés par les Gaulois.
Rome au 4e siècle avant notre ère, c'est bien sûr pas du tout la Rome impériale. Elle
non.
Est sûrement bien plus facile à prendre.
Elle est bien plus facile à prendre. C'est une petite cité du Latium. Ce n'est pas encore l'Urbs que l'on connaîtra quelques siècles plus tard.
Qu'en est-il de ce mythe des oies du Capitole?
Alors, c'est un mythe qui arrange bien les Romains, puisqu'il faut bien expliquer pour quelles raisons ils ont failli perdre la face aux yeux du monde, puisque bien entendu, il faut comprendre que cette historiographie gréco-latine et surtout latine, c'est une historiographie qui est réécrite, on réécrit l'histoire, la gloire de Rome. Donc tout cela doit prouver la détermination de Rome de ne pas faiblir face à l'adversité.
La peinture 19e a consacré quelques belles scènes à l'arrivée des Cénons dans la Rome vaincue.
Oui, nous avons notamment un très beau tableau pompier de Jamin qui représente Brennus. Donc dans le lointain, on voit le Capitole, on voit des flammes, on voit de la fumée. Donc visiblement, Rome est en feu et livrée aux barbares. Et ce Brennus, avec un large sourire, entre dans une demeure romaine, typiquement romaine, avec des stucs, avec du marbre. Et là, devant lui, des femmes nues l'attendent, c'est sa part de butin. Il y a des têtes coupées, là aussi c'est la preuve de sa bravoure. ainsi que de l'or et des biens. Donc on a véritablement dans cette peinture de Jamin du 19e siècle, mais on pourrait citer d'autres auteurs du 19e siècle, une continuité de la reprise des stéréotypes des auteurs gréco-latins qui se perpétuent au 19e siècle dans la sculpture, dans la peinture, mais qui se perpétuent encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, tel que tout un chacun, nous percevons ces Gaulois, ces barbares, avec l'image, avec le prisme déformant des auteurs gréco-latins.
L'ensemble de Rome est pillé ?
L'ensemble de Rome est pillé, hormis le Capitole, puisque les oies interviennent, les chiens dorment, les oies interviennent. L'ensemble de Rome est pillé et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les Gaulois vont y rester que 6 mois. Vont réclamer une rançon pour pouvoir partir, pouvoir libérer ce territoire. Parce que au bout de 6 mois, il n'y a plus rien à manger, l'hiver arrive, donc ils vont quitter les lieux.
Et quelle est la véracité de ce fameux malheureux vaincu et puis de cette histoire de poids truqué, de poids fourré, devrait-on dire?
Je pense pas qu'il y ait des poids truqués. Nous avons un collègue qui nous a quitté il y a pas très longtemps, Serge Le Rouillon. C'est un archéologue belge, un philologue belge, qui avait bien mis en évidence que les Romains ont été surpris par, on va dire, un autre système de poids et mesure, typiquement gaulois, et qu'ils ont considéré que c'était des poids truqués. Alors effectivement, peut-être que ce fameux Rhénus a jeté son glaive dans la balance, mais là on est vraiment dans le pittoresque.
Le salut de Rome vient à l'occasion de la bataille des nations, affrontement mémorable qui voit une coalition celto-italique forte de 40 000 hommes être battue au cœur des Apennins.
Oui, à Sentinum, en 295 avant Jésus-Christ, la bataille des nations. C'est un événement retentissant puisque c'est la puissance gauloise est définitivement brisée à ce moment-là, puisque les batailles qui vont être livrées tout au long du 3e siècle avant Jésus-Christ, généralement, elles vont être à l'avantage des légions romaines. Et en 295, c'est un des moments clés, puisque l'on voit non pas des Gaulois affronter seuls les Romains, mais les Gaulois affronter les Romains au sein d'une coalition auprès d'Italiques, donc des Samnites, et auprès d'Étrusques.
C'est la prise de la ville d'Arezzo.
À la prise d'Arezzo, intervient un peu plus tard, on est en 284 avant Jésus-Christ. Là, les Gaulois mènent ce siège devant Arezzo, ils sont attaqués par une légion romaine, ils défoncent cette légion romaine, et les conséquences vont être terribles, parce que cette armée gauloise est visiblement composée de Sénons, et les Sénons vont faire un peu les frais, si on peut dire, de cette expansion romaine qui se met en place à partir de la fin, donc du début du deuxième quart du troisième siècle avant Jésus-Christ.
Côté Rome, doit-on parler d'un programme idéologique anti-gaulois, anti-sénon? Le gaulois est-il diabolisé, pilleur sacrilège, avide et bien sûr sans aucun respect pour les dieux?
Oui. Le Gaulois est, oui,
c'est... Et le Sénon, surtout.
Le Sénon, parce que le Sénon a pris Rome. Mais le Gaulois, dans sa généralité, oui, le Gaulois, c'est un barbare. Et il faudra attendre César, au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, pour mettre un terme, de façon tout à fait idéologique, c'est de la propagande, hein, pour mettre un terme définitivement à cette menace gauloise. À partir du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, le Gaulois n'est plus le barbare par excellence, la menace par excellence pour Rome, mais c'est le Germain qui le devient. César crée le Germain et le Germain devient la nouvelle menace face à Rome.
Luc Barra, une dernière question. Tite Live, Plutarque, Dion Cassius l'évoque. Pour s'assurer que les Gaulois ne reviendront pas prendre Rome, la cité enterre vivant et rituellement deux couples ennemis.
Oui, un couple de Gaulois et un couple de Grecs. Alors le couple de Gaulois se comprend. Étant donné ce que nous venons de dire, cela se comprend. Pour quelle raison un couple de Grecs? C'est beaucoup plus difficile à expliquer, sachant que les Grecs représentent quand même, malgré tout, aux yeux des Latins, des Romains, la civilisation par excellence. N'oublions pas que, jusqu'au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, les Romains sont classés par les Grecs dans la catégorie des barbares. Or, enterrer deux Grecs sur le Forum Borarium en guise de sacrifice aux dieux pour conjurer une menace, cela s'explique difficilement. En revanche, si on se place dans la politique extérieure de Rome, sachant que Rome entreprend à partir de la fin du 3e siècle la conquête de la Méditerranée et va s'attaquer à la Grèce, cela se comprend beaucoup mieux.
Luc Barret, merci beaucoup. Je rappelle donc votre exposition à Sens et à Troyes et le très beau catalogue « Les Cénons, archéologie et histoire d'un peuple gaulois ». Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Guillaume Ledu et bien sûr avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons avec Jean Guilaine 40 ans de recherche protohistorique en France.